S'ils vous amochent, vous les amochez. S'ils vous tuent, vous vous relevez.
Microclimat. Le réchauffement climatique, on le sait, a des effets sur l'agriculture, notamment sur un secteur bien particulier, la viticulture, puisque la production de vin est confrontée à un certain nombre de problèmes. Comment s'adaptent aujourd'hui les viticulteurs au changement climatique et comment nous, consommateurs, nous pouvons encourager une viticulture plus respectueuse de l'environnement? Ce sont les questions que j'ai posées à Étienne Delay, géographe à l'Université de Limoges.
Alors, je m'appelle Étienne Delay. J'ai 30 ans, je suis docteur en géographie et j'ai fait ma thèse sur les interactions sociales et les dynamiques sociales qui structurent les paysages viticoles.
Étienne, je voulais te demander donc, quels sont les effets du réchauffement climatique sur les vignes et par conséquent sur le vin et comment peut-on s'adapter?
Ah, ça c'est une question super intéressante. Qui me fait penser à un groupe de recherche auquel j'appartiens, qui s'appelle le programme La Cave pour Long Term Adaptation, Climate Change in Viticulture and Oenology, quelque chose comme ça.
Qui donnerait en français
C'est un programme de recherche sur l'adaptation sur le temps long au changement climatique pour la viticulture et l'oenologie. Mm-hmm. Et qui est piloté par Jean-Marc Touzard de l'INRA de Montpellier et Nathalie Ola de l'INRA de Bordeaux. Et donc, c'est un programme de recherche qui est une grosse chose. Ça rassemble peut-être 23 laboratoires en France et qui travaillent à la fois sur la génétique, à la fois sur les dynamiques climatiques, etc. Et donc, on a au sein de ce programme-là, j'ai travaillé sur l'adaptation au changement climatique sur l'AOC de Banyuls. Et donc, j'ai fait venir des chercheurs, on a fait un séminaire là-bas, c'était vachement intéressant. Et donc, pour revenir à la question, les effets du changement climatique sur la viticulture, le maître mot, c'est l'adaptation. En fait, ce qui est sorti du séminaire à Banyuls, c'est que Banyuls était un très bon territoire test, où le changement climatique est déjà là. Et on voit que la marge d'adaptation, elle est complètement liée à l'homme et au changement de pratique ou non. Si on regarde un peu qu'est-ce qu'entraîne le changement climatique sur la viticulture, quand on pense au changement climatique, on pense au réchauffement d'abord. Un réchauffement, ça veut dire plus de soleil sur la vigne, ça veut dire plus de photosynthèse. Et plus de chaleur. La photosynthèse, c'est bien parce qu'on a, pour faire schématiquement, on augmente le sucre dans les baies. Et donc, qui dit sucre, dit alcool. Donc, c'est un effet qu'on cherche à amoindrir parce que les consommateurs, aujourd'hui, ils veulent des vins qui ne sont pas à 15 degrés. Et en même temps, c'est chaleur. Et quand on dit chaleur, quand il y a des trop grosses chaleurs, il y a une double, en fait. Dans le raisin, il y a une double maturité. On a la maturité alcoolique et la maturité technologique. Et la maturité technologique, c'est les tanins, les choses comme ça qui vont se développer dans la baie. Et ça, c'est des chercheurs de Montpellier, je pense à Alain Carbonneau par exemple, qui montre qu'il faut des grosses inversions de température jour-nuit pour que cette maturité des tanins et des arômes finalement se mettent en place. Et donc, qui dit changement climatique, dit on réduit cette grosse alternance de température jour-nuit. Donc du coup, on va avoir des vins qui vont être très alcoolisés avec une perte d'arômes. Et donc du coup, on va essayer de contrebalancer ça. Et alors, typiquement sur Banyuls, j'ai travaillé il y a quelques années avec un copain qui s'appelle Damien Chapoulard, qui maintenant travaille en Australie. Sur Banyuls, c'est sur comment est-ce qu'on peut chercher à récupérer en fait cette différence de température jour-nuit, une différence de température plus grande. Et vraisemblablement, on a installé des capteurs de température sur la vigne grâce à une ANR de Hervé Quenolle, à Rennes. Donc on a une quinzaine de thermomètres qui enregistrent la température en continu à Banyuls et en Italie. Et donc on s'est rendu compte que les endroits qui seraient peut-être plus adaptés aujourd'hui pour la viticulture, ça serait les parcelles orientées au nord, parce qu'elles auraient du soleil suffisamment la journée, mais en même temps, la nuit, elles garderaient cette amplitude thermique, cette différence de température jour-nuit qui est intéressante pour la chose. Donc il faudrait expérimenter ça là, dans les années à venir sur Banyuls, pour ce côté-là. Après, il y a des techniques, donc c'est pour le côté adaptation dont tu parlais tout à l'heure. Ce qui est au cœur de ces questions, c'est l'homme, et parce que ça va être l'homme qui va venir intervenir sur la vigne. Et si tu tailles, par exemple, en retard, tu vas faire démarrer ta vigne en retard, et du coup, tu vas limiter aussi un peu le temps d'exposition aux rayons du soleil. Si tu vendanges à tel moment, tu vas amoindrir tel facteur. Et donc vraiment, ce dont il faut se souvenir, mais c'est valable dans tous les vignobles du monde, c'est que l'homme, c'est le facteur clé du produit final, quoi. C'est lui qui va pouvoir amortir les effets du millésime.
What is this, Bruno?
The feed of the battle of the county.
Now, Bruno, this
feed
a bottle of wine. Yes?
The feed of the battle.
A bottle of wine.
Bottle of wine.
Yes, but what sort of wine, Bruno, is?
The feed of the battle of wine.
Chianti.
Chianti.
This is a bottle of Chianti, Bruno. And what is this, Bruno?
This is of the Gibelin.
Ah, this is good Gibelin. Gibelin. Yes, bravo, Bruno. And what is this, Bruno?
Yes. This is of the pichet of the vin.
A pichet of wine, yes. But what sort of wine is this, Bruno? That is the question. This is a pichet of Côte du Rhône, Bruno.
Yes.
This is not a bottle of candy, Bruno. Yes. This is a pichet of Côte du Rhône.
Yes.
Quel est l'impact de la viticulture mondialisée sur l'environnement?
On est donc sur un marché mondialisé. On a des vins qui sont très bien, qui viennent d'Argentine, du Chili, d'Australie. Et puis on a des vins très bien qui viennent d'Europe. Et nos vins européens qui étaient à l'époque très qualitatifs et donc qui pouvaient très bien se vendre à l'exportation, ils ont plus de mal aujourd'hui parce qu'il y a plus d'acteurs sur le marché. Et donc du coup, ça pousse les acteurs locaux à industrialiser les process de fabrication. Et donc on mécanise, on va désherber, on va traiter, on va faire beaucoup de travaux dans la vigne et en cave qui vont nous permettre ou de gagner du temps sur le processus de fabrication ou sur le processus de maturité ou de pousse de la vigne. Et donc du coup, qui auront des impacts sur l'environnement très clairement. Enfin, la viticulture, la viticulture traditionnelle, c'est quand même pas mal polluant. Et en plus, ça dépend beaucoup des régions. J'ai visité un vignoble en Chine, au nord de Pékin, où c'est très humide. Donc ils font peut-être 20-25 traitements chaque année sur la vigne. Si on fait ça sur plusieurs années, on imagine le nombre de résidus de traitement dans le sol. Et donc là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'homme qui est au centre de tout ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui est capable d'investir de l'argent dans des zones qui ne sont pas forcément propices à la vigne. Il faut se souvenir que les zones propices à la vigne, grosso modo, c'est le pourtour méditerranéen, des zones qui sont plutôt sèches en été, donc où les maladies se développent moins. Et quand on monte au nord, et au nord pourtant c'est nos vignobles qualitatifs en Europe, je pense en France à la Bourgogne, au Bordelais, installer des vignes à Bordeaux, au départ, c'était pas gagné, quoi. Donc il a fallu faire un gros travail de sélection sur les cépages pour qu'ils soient plus résistants aux maladies, etc. Mais on est toujours à des... Enfin, on est obligé de traiter au cuivre très fort pour limiter l'oïdium, le mildiou, etc. Et bon, tout ça pour dire que si on pense à l'échelle mondiale, on va essayer de gagner du temps et de réduire les coûts partout. Et donc, la manière la plus facile, c'est mécaniser, avoir accès à de la chimie. Et donc, du coup, on a bien sûr un effet sur l'environnement. Et le problème avec la viticulture, c'est que c'est une production qui est territorialisée. Du coup, ça veut dire que la pollution, elle est diffuse localement, quoi. On ne va pas pouvoir demain déplacer nos vignobles. Donc, la pollution, elle restera à l'endroit où ils sont, quoi.
Quartier de la ville, y'a les yachts qui vont voir les filles, y'a les yachts qui vont voir les gars. Ça boit un petit verre et puis ça brille, si chante en gueulant ça frétille, ça pleure en chantant le oh là. Mais moi de tout ça, moi le roi de la nouvelle. On m'a volé sur mes droits, mes plaisirs sacrés. Je fume cigarette sur cigarette, car je n'ai plus d'allumette. Je bois verre après verre à mes amours éphémères. Je crie des mots encore des mots, car j'ai tout ce que je veux faire. J'ai un copain, il s'appelle Emile. Il dit qu'il aime pas le famille. Il dit qu'il croche sur les bourgeois. Mais hier, je vois Émile avec papa, maman, la tante Cécile. Ils bouffaient tous à l'opéra.
C'est qui fait.
Mais moi, dans tout ça, oh, le roi de la nouvelle. Parce que je l'en ai petit poids, car faut penser à demain. Et voilà pourquoi je m'emmène le dimanche de la tante Germaine. Me nourrir pour la semaine, j'amuse les morts du notaire. Je sais pour quoi faire, je vends des sourires aux rombières. Car c'est tout ce que je veux faire. J'ai laissé tomber la petite famille, parti pour la Sicile, parti pour retrouver mes droits. Partir comme ça, ça se fait pas. Je suis au roi de la nouvelle, tant pis si personne ne l'y croit. Et voilà pourquoi on se moque, ça plaisante, ça critique. Anticonformistique, ça se gonfle, ça se rassure et ça grasse. Ça s'enfonce et ça se blase. Ça dit que la vie est plus douce sans le putain de roi de la nouvelle. J'ai écrit cette chanson en île. Croyez pas que c'était si facile. Facile de faire aimer tout ça. Au moins maintenant je suis tranquille. Ils diront plus que mes chansons sont débiles. Joli oui, ça vous, monsieur.
Est-ce que tu peux me dire ce qu'est le vin nature ?
Alors, c'est une espèce de sous-catégorie des vins bio. Alors, on a déjà la première étape, c'est le vin bio. Les vins bio suivent le cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc, il y a un nombre de traitements limité par rapport à l'agriculture conventionnelle et des doses aussi. Donc, ça fonctionne à la fois sur la fréquence, mais aussi à la fois sur la dose de produits chimiques que tu as le droit de mettre ou pas par traitement. Donc là, si on est en agriculture biologique, on a des doses qui sont bien plus faibles. Et en fait, le vin nature, c'est une espèce de... C'est tirer un peu la philosophie de l'agriculture biologique jusqu'à la cave. Ça veut dire qu'après, on va avoir moins d'intervention sur le vin. Donc on récolte le raisin et ensuite, une fois que le raisin est récolté, on va être le moins interventionniste possible sur le jus qui va en sortir. Donc on va limiter les intrants en levure, on va pas souffrer, on va pas coller le vin, on va pas... Plein de traitements qui sont faits en cave traditionnelle, parce que le consommateur veut des vins qui soient translucides, il veut pas de dépôt au fond des bouteilles, il veut pas... il veut un vin régulier d'une année à l'autre. Le vin nature, c'est un peu l'opposé, c'est une philosophie où on dit... qui se veut plus respectueuse, en fait, du produit fini vendu au consommateur.
Et les produits comment ?
Par exemple, le pourquoi est-ce que j'apprécie les vins nature, c'est, par exemple, on a des doses de soufre, on ne souffre pas le vin. Alors, pourquoi est-ce qu'on souffre le vin, d'abord ? On souffre le vin pour stopper les mécanismes de fermentation dans la bouteille. C'est-à-dire que quand on met le vin en bouteille, on veut qu'il s'arrête là. On l'a trouvé bien à ce moment-là, on l'arrête. Donc on l'arrête chimiquement en mettant du soufre. Et du coup, après, il va être stable dans les transports. Et on va pouvoir le mettre au chaud, on va pouvoir le mettre au froid. Enfin, du coup, ça devient un produit un peu inerte, entre guillemets. Et du coup, le vin nature, il s'interdit ce genre de pratique. Ou alors, c'est à des doses infinitésimales. Et du coup, ça veut dire qu'on prend le risque d'avoir des bouteilles qui vont continuer à évoluer, qui vont des choses comme ça. Mais en même temps, pour le consommateur, ça veut dire qu'on peut boire du vin, déjà du vin qui a des goûts étonnants, parce que on est presque à l'opposé de la standardisation. Et en même temps, on va pouvoir... on va pas avoir ces espèces de casquettes plombées le lendemain, parce que le soufre, ça se fixe dans le cerveau, et c'est ce qui donne mal à la tête. Et donc là, on a une pratique en cave qui a un effet sur la santé du consommateur. Et donc là, on a un avantage à boire du vin nature, par exemple, pour pas subir un traumatisme de la veille.
Et c'est aussi de la part des viticulteurs un engagement écologique.
Ah, clairement, ouais. Et du coup, c'est ce que je voulais dire quand je parlais de la prolongation de cette philosophie de la bio en cave. C'est qu'on essaye d'avoir un respect de son environnement, environnement au sens environnement de travail et puis environnement social et écologique autour de soi, plus grand que quand on est en viticulture traditionnelle, quoi.
Alors, quels sont les vins, toi qui es passionné donc de vin nature, quels sont les vins les plus recommandables selon toi d'un point de vue écologique et social ?
Alors, le côté social, il n'est pas forcément facile à appréhender autrement qu'en allant rencontrer les viticulteurs. Du coup, ça veut déjà dire que ça élimine le vin de la grande distribution, ce qui n'est pas forcément un mal, mais... ensuite, d'un point de vue... se lancer dans des recommandations, c'est périlleux. Il y a différents systèmes de labellisation en France et en Europe. On a les AOC qui normalement garantissent une espèce d'hérédité ou de trait commun à une famille de vins. Donc si un vin est en AOC Châteauneuf-du-Pape, ça veut dire que ça veut dire qu'il a subi des dégustations en aveugle par un panel d'experts qui ont dit OK, ces vins-là, on retrouve tous les caractéristiques de cette AOC là. Donc c'est déjà un gage de qualité en soi, parce qu'il est passé à travers un filtre d'experts. Après, on a toujours les détracteurs qui diront que ce filtre d'experts, il va exclure de la labellisation des vins étonnants. Et du coup, on a tous les ans des cas où, par exemple sur Banyuls où j'ai travaillé, des vins qui ne passent pas le comité d'experts et qui ne pourront pas être mis en vin AOC parce qu'ils sont trop divergents par rapport à le dogme prôné par l'AOC. Bon, donc du coup, l'AOC a ses détracteurs et puis ses côtés positifs. Après, on a les certifications comme le label agriculture biologique, le label Déméter. Donc agriculture biologique, ça veut dire qu'on a on a des contrôles sur les pratiques du viticulteur et au champ et à la cave. Il faut qu'il utilise que des produits chimiques issus de... pas issus de synthèse, donc des produits chimiques naturels. Et puis on a le label Déméter, ça veut dire qu'en plus le viticulteur, il va suivre des pratiques biodynamiques. Alors la biodynamie, c'est encore un autre truc, on rentre dans des choses parfois ésotériques, ça veut dire qu'on va réfléchir sur l'orientation des planètes pour faire telle ou telle intervention dans la vigne, ou pour... et du coup, ce type de pratique a été labellisé. Et puis après, on a des labels indépendants qui émergent aussi, finalement des prescripteurs, quoi, un peu comme Parker en son temps, il a pris sa retraite, qui disent, ça c'est un très bon vin, ça c'est un vin moins bon. Et du coup, il faut faire son chemin dans cette jungle.
Donc il faut aller rencontrer les viticulteurs et goûter.
Ouais. Alors ça, c'est... aujourd'hui, moi, j'ai du mal à boire un vin dont je ne connais pas les viticulteurs parce que, en fait, il y a un lien très fort avec le territoire et avec les hommes qui produisent le vin. Chaque fois, un vin, c'est une rencontre, quoi. C'est un aspect social parce qu'on le partage, mais aussi social parce que ça représente derrière le travail d'hommes, quoi, et un produit qui a été fait dans cette finalité-là, quoi, et du coup, il faut rencontrer les gens.
Sur les questions de prix, étant donné que ce sont des vins qui sont produits en faible quantité, j'imagine que le prix à la bouteille n'est pas très accessible.
Oui et non, parce que du coup, quand il y a une niche comme ça qui s'ouvre, il y a forcément un moment, elle devient attractive aussi pour des plus gros. Et quand on dit plus gros producteur, ça veut aussi dire plus de moyens. Et donc, il y a des très grosses entreprises qui font du vin bio, du vin nature, parce qu'ils ont trouvé un filon, quoi. Et voilà. Mais c'est vrai que de manière générale, les viticulteurs qui s'engagent dans cette filière-là, c'est des gens avec des convictions. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés à Banyuls, il leur faut vraiment beaucoup de convictions. Et leur vin est plus cher, mais en même temps, il suffit d'en boire un peu moins. Et voilà, ça veut dire que c'est aussi un moyen de subventionner. Enfin, pour moi, à partir du moment où on achète un produit, et le vin en particulier, en rencontrant les gens, c'est vraiment une subvention qu'on fait au producteur en lui disant « Ok, t'as produit quelque chose qui me plaît, je t'en prends une caisse parce que vraiment ça vaut le coup d'être bu, allons-y. » Et donc tous les ans, on descend à Banyuls, au collectif anonyme, au domaine de Casablanca, parce que c'est des gens qui sont... qui reflète quelque chose, quoi.
Merci, Étienne.
Ben, de rien, avec plaisir.
Donc, je rappelle que ta thèse est en ligne. Tu peux me dire sur quel site on peut la trouver.
Ouais. Sur ALSHS, c'est un site qui recense en fait tous les travaux en SHS que les chercheurs veulent mettre à disposition des lecteurs. Et donc, il suffit de chercher Étienne Delay sur AlléchasseSHS et on trouve toute ma production.
SHS, je le rappelle, sciences humaines et sociales.
Tout à fait.
Songs and melodies change and change and sway, but they still stay the same. The songs that we sung when the dark days come are the songs that we sung when we chased them away. If I ever found a pot of gold, I'd buy bottles untold of the nectar of the vines, 'cause I'm gonna die with a twinkle in my eye, 'cause I sang songs, spun stories, loved, laughed and drank wine. Tomorrow is another day, the cats are out to play, to play. That old rusty spaceship wants to sail into the Milky Way again, on a river of red, red wine. Run, 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 run. Let's have some fun, 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 fun. We'll drink, 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 to drink, 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 to drink, drink, drink. A toast to the sun, 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 sun. Run, 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 run. Let's have some fun, 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 fun.
I'm having a good time.